J'aimerais ce matin, pour nous conduire dans ce temps où nous voulons recevoir de Dieu, nous voulons l'écouter, j'aimerais partir d'un texte qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste. Le livre de l'Ecclésiaste, ce n'est pas forcément un livre qu'on lit souvent, mais il y a un passage très connu. Et il se trouve que, de façon très originale, c'est celui que j'ai choisi. Donc c'est au chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament. Ecclésiaste, chapitre 3. Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps de guerre et un temps de paix. Quel avantage le travailleur retire-t-il de son travail? J'ai vu l'occupation que Dieu impose aux humains. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Aussi, il a mis la durée dans leur cœur, sans que l'être humain puisse trouver l'œuvre que Dieu a faite depuis le commencement jusqu'à la fin. Je le sais, il n'y a rien de bon pour lui, sinon de se réjouir et de faire son bonheur pendant sa vie, et aussi que, pour chacun, manger, boire et voir le bonheur dans son travail est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait et pour toujours, il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu fait en sorte qu'on le craigne. Ce qui est, a déjà été. Et ce qui sera, a déjà été. Dieu va à la recherche de ce qui a fui. Je le disais, ce texte de l'Ecclésiaste est connu, en particulier les 8 premiers versets avec l'alternance des différents temps. Peut-être l'aviez-vous déjà entendu. L'auteur de ce livre est un sage, Coëlette. Il se présente comme un sage, un observateur de la vie. Il regarde ce qui se passe sous le ciel, comme il le dit. Et la chose qu'il a observée, qu'il remarque et qu'il répète tout au long de son livre, c'est la futilité de la vie, la vanité de la vie. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, un prédicateur avait fait une série sur ce livre et nous avait expliqué pourquoi Kohelet, la vie, c'est comme la buée sur une vitre. Elle est là, on la voit. Quelques instants plus tard, elle a disparu. Il n'y a plus de traces de son passage. Et donc, l'Ecclésiaste, c'est un livre décapant. Décapant parce qu'il examine comme ça tout ce qui peut nous motiver dans la vie et il n'y a pas grand-chose qui reste à son examen. Mais revenons à notre texte. À première lecture, on le perçoit comme un texte de sagesse, un texte qui nous explique qu'il y a un temps approprié pour telle ou telle chose, qu'il faut prendre conscience de cette alternance et qu'il y a un moment pour faire ce qu'il faut faire. Par exemple, il y a un temps où il est bon de pleurer et un autre de rire. Passe dans sa vie par toutes les émotions, il est important de bien les vivre au bon moment. Cette lecture est séduisante. Elle est une invitation à prendre les choses avec philosophie. Et si les choses désagréables, savoir qu'elles changeront, si elles sont agréables, les prendre avec distance, sachant qu'elles ne dureront pas. On imagine Dieu comme un grand chef d'orchestre prévoyant ainsi les différents temps par lesquels nous passons. Cette lecture pose toutefois un problème. Croire que Dieu a prévu un temps pour tout, un temps pour faire la guerre, un temps pour tuer, un temps pour détester, c'est quand même un peu en tension avec ce qu'on connaît du reste de la révélation biblique. Tension, contradiction. Je crois que le sens de ce texte n'est pas celui-là. Le sens n'est pas celui des différents temps qui s'alternent et dans lesquels il faut rentrer. Non, comme je l'ai dit, Kohelet parle de la futilité de la vie. Et là encore, c'est de la même chose qu'il parle. Tout ce qui est fait sera un jour défait. Les enfants que tu mettras au monde, eh bien, un jour ils mourront. Ce que tu planteras finira par être arraché par un autre ou peut-être même par toi-même. Quand certains tuent, d'autres soignent. Et ce qui est démoli finit un jour ou l'autre par être reconstruit. Les larmes sont balayées par les rires, les lamentations oubliées dans les danses. Quand on jette des pierres, comme c'était le cas dans les guerres antiques, on jetait des pierres dans un champ pour le rendre incultivable, pour décourager les survivants, eh bien, elles finissent un jour par être ramassées pour rendre le champ à nouveau cultivable. Celui qu'on étreint, que ce soit notre enfant ou notre amour, quand bien même on aimerait que ce moment ne finisse jamais, finira par partir, par prendre son indépendance, ou, sans dire que les histoires d'amour finissent mal, se plonger dans d'autres occupations, aller vers l'extérieur. Toutes choses qu'on cherche, qu'on trouve, un jour ou l'autre, elle sera perdue. Tout ce qu'on garde, un jour ou l'autre, sera jeté. Quand on déchire un vêtement comme le faisaient les antiques pour exprimer de façon grandiloquente le deuil, le chagrin, la révolte, ben ce vêtement un jour sera raccommodé et l'expression outrée de nos émotions oubliée. Même celui qui se tait un jour rompra le silence. Et si l'amour laisse la place à la haine, la guerre finit toujours par laisser la place à la paix. Vous avez remarqué, le texte alterne des fois les faits positifs, désirables, et placés en premier et remplacés par quelque chose qui nous plaît moins, Des fois, c'est l'inverse. Quelque chose qui ne nous plaît pas au départ est remplacé par quelque chose qui nous plaît plus. Le texte ne dit pas que, de façon négative, tout ce qu'on a finira un jour par s'abîmer. Il ne dit pas non plus que tout finira par s'arranger à la fin. Non, il dit simplement par dire que tout ce qui est fait, bon ou mauvais, finira par être défait. Ça laisse une conclusion un peu désarmante de voir que l'homme ne laisse pas une grande trace de son passage, puisque ce qu'il fait, les relations qu'il construit, ce qu'il accomplit, positif ou négatif, tout finit par être défait. C'est la constatation du sage, la constatation de Coëlette, avec cette question qu'il pose à la fin de son inventaire. Quel avantage le travailleur retire-t-il de son travail? Pourquoi faire tout ça, finalement? Faut-il désespérer? Quand on lit un texte pareil, qui nous remet à notre place, faut-il désespérer? La vie est-elle finalement sans intérêt? Peut-être trouvez-vous ce choix de texte peu motivant pour la rentrée. Mais je crois que Coëlette, c'est un sage qui regarde les choses en face et pas quelqu'un qui se plaît dans le désespoir. Et après avoir regardé les choses en face, il y a deux directions que je relève dans son texte, deux directions qui me paraissent intéressantes à explorer, à suivre pour nous. La première, c'est l'invitation à prendre du plaisir de ce qu'on peut, de ce qu'on accomplit pendant sa vie. Nous l'avons vu, s'il arrive des choses peu agréables, il arrive aussi des choses bonnes, des choses qu'on arrive à mener au bout, des réalisations dont on peut être fier. Et la meilleure chose qu'on puisse faire sous le ciel, dans cette vie, c'est le reconnaître et en prendre plaisir. Coëlette le dit au verset 12, « Je le sais, il n'y a rien de bon pour lui, pour l'homme, sinon de se réjouir et de faire son bonheur pendant sa vie. Et aussi que pour chacun, manger, boire et voir le bonheur dans tout son travail est un don de Dieu. » Ce que Dieu nous donne, ce n'est pas d'accomplir des choses qui laisseront des traces, d'avoir un destin et que l'humanité ne nous oublie jamais. Ce que Dieu nous offre, c'est de pouvoir nous réjouir de ce que nous faisons, que ces choses soient importantes ou qu'elles soient toutes simples. Cette joie, elle est là. Nous pouvons la saisir, nous pouvons y goûter, nous pouvons en profiter. Je crois qu'il y a là une invitation pour nous à ne pas s'agiter, ne pas se jeter partout dans un activisme débridé, essayer d'accomplir plein de choses, se mettre une pression monumentale comme si le monde dépendait de notre activité. Au contraire, je crois qu'elle nous invite à prendre la mesure de ce que nous faisons, comprendre ce que nous faisons à sa juste valeur. Ne pas croire que ce qu'on a accompli restera, mais à se réjouir de ce qu'on fait. Ça, c'est la première direction que nous propose Coëlette pour profiter de cette vie, malgré la futilité des choses, malgré le fait qu'elles passent. La deuxième qui m'interpelle, c'est ce qu'il affirme, que Dieu, lui, fait toutes choses bonnes. Il le dit au verset 11, « Tout ce qu'il a fait, tout ce que Dieu a fait est beau en son temps. » Il le répète au verset 14, « Je sais que tout ce que Dieu fait est pour toujours. Il n'y a rien à y ajouter. et rien à y retrancher. J'aimerais rester un peu plus longtemps sur cette idée que tout ce que Dieu fait est bon. Parce que ce que Dieu fait, ce n'est pas seulement pour nous rassurer intellectuellement que de savoir ce que lui fait est bon. Ça nous concerne aussi. Qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu n'est pas un Dieu lointain et mystérieux, c'est un Dieu qui donne à se faire connaître. Et dans la Bible, il se révèle. Et on y apprend que Dieu fait avancer son royaume. L'Évangile nous dit que le royaume de Dieu s'est approché. Il s'est approché de nous. Jésus est venu, il l'a manifesté. Et depuis sa venue, l'homme a accès à Dieu. Et il peut vivre le royaume de Dieu. Nous pouvons vivre le royaume de Dieu aujourd'hui déjà. Dieu fait avancer son royaume, il établit son Église. L'Église qui, dans le monde, est sa présence. L'Église qui poursuit la mission de Jésus-Christ. L'Église qui, aujourd'hui encore, fait de nouveaux disciples. Et Dieu, également, amène l'histoire à son terme. Il a un plan et il le déroule. Et il se passe comme il l'a décidé. Nous le savons, il nous le révèle dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, qui nous parle de ça, de ce plan qui s'accomplit. Nous nous rapprochons chaque jour du retour de Jésus-Christ, de la victoire finale, de la fin du péché, de la mort, de la maladie, de la souffrance, et de la fin de la futilité des choses. Dieu est à l'œuvre. Ce qu'il fait est bon. Ce qu'il fait a du sens. Ce qu'il fait dure. Mais plus encore, et c'est là que ça nous intéresse, Dieu nous invite à participer à son action. Il nous a confié sa mission, celle de faire des disciples, d'être son Église, d'être ses représentants ici sur la terre, ou pour reprendre l'expression de Coëlette, sous le ciel. Il nous équipe pour cela, il est avec nous, il nous donne son esprit, il nous transforme pour être de plus en plus efficace, de plus en plus à son image. Et il fait cela pour nous permettre d'y prendre du plaisir. Telle cette promesse qui est faite dans l'Évangile, au serviteur fidèle au retour de son maître. Bon et fidèle serviteur, viens partager la joie de ton maître. Quand nous participons à sa mission, nous travaillons pour quelque chose qui dure, quelque chose qui restera. Nous travaillons pour une joie, pour une satisfaction plus grande, ce qui se passe aujourd'hui, que ce que Coëlette appelle des futilités. Et en cette rentrée, l'invitation que j'aimerais vous laisser, c'est celle de ne pas s'agiter, mais de rechercher ce que Dieu fait. Rechercher ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il est en train d'accomplir, afin d'entrer dans ce mouvement. J'ai été très influencé par une lecture que j'ai faite il y a 2 ou 3 ans de Eugène Peterson, qui a attiré mon attention là-dessus, sur le fait que Dieu est à l'œuvre. Et mon travail, en tant que chrétien, en tant que disciple, en tant que serviteur, mon travail, c'est de comprendre ce qu'il est en train de faire, comprendre ce qu'il attend de moi pour rentrer dans ce travail. Et c'est une difficulté de comprendre ce que Dieu fait. Dieu, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas de façon intelligible, qui ne s'adresse pas à nous comme notre chef pourrait s'adresser, par exemple, à nous au travail. Comment faire pour savoir ce qu'il est en train de faire ? est la clé que donne Eugène Peterson. Pour lui, par la spiritualité, on comprend ce que Dieu fait et ce qu'il attend de nous. Par la spiritualité, c'est-à-dire la spiritualité, c'est être à son écoute, par la lecture de la parole, par la prière, par l'accompagnement aussi. Eugène Peterson écrit « Le postulat de la spiritualité, c'est que Dieu est en train d'accomplir quelque chose avant que je le sache. Mon devoir n'est donc pas de demander à Dieu de faire ce qui, à mon avis, doit être fait, mais c'est de prendre conscience de ce que Dieu est en train d'opérer pour que je puisse réagir à son initiative, y participer et y puiser beaucoup de plaisir. Prendre conscience de ce que Dieu est en train d'opérer pour que je puisse réagir à son initiative, y participer et y puiser beaucoup de plaisir. À celui qui veut participer à l'œuvre de Dieu, je lancerai donc cette invitation, celle de lire et méditer la Bible, pour la connaître, mais aussi pour la comprendre, pour s'en imprégner, s'en imbiber, pour toujours Dieu mieux connaître Dieu qui s'y révèle. Lire et méditer la Bible et également prier. Priez seul devant Dieu, mais aussi priez avec d'autres. Priez avec d'autres qui permettront de faire le tri, qui permettront de me décentrer de moi-même, de la façon dont je me vois, de mes besoins, de mes sentiments, pour entrer dans quelque chose de plus grand. Une invitation à fréquenter Dieu à travers la lecture, à travers la prière. Non pas comme une règle à suivre. Et pas de se dire, je vais lire ma Bible et prier tous les jours pour pouvoir être béni. Non, comme quelque chose qu'on fait pour le connaître toujours mieux, pour comprendre ce qu'il est en train de faire, pour participer à son œuvre, cette œuvre qui dure. Cette œuvre est bonne. Cette réflexion s'éloigne un peu peut-être du discours de Coëlette, de son constat sur la futilité de ce que l'homme peut accomplir. Je crois que c'est en lien quand même, partant du constat qu'il fait, de voir que l'activité de l'homme sous le ciel ne dure pas. Nous pouvons lever les yeux pour contempler ce que Dieu fait, qui est bon, ce qui dure, ce qui réjouit durablement. Et c'est une parole que j'aimerais vous laisser pour la rentrée, alors qu'en Église, nous nous rassemblons autour d'un grand projet, celui de déménager pour ce bâtiment plus grand avec beaucoup de travaux pour l'aménager, mais aussi pour vos projets personnels, tous les projets que vous pouvez former pour cette année scolaire, pour des études, pour des nouveaux défis au travail, nouveaux défis dans une nouvelle ville. Ne nous agitons pas. Prenons le plaisir simple de ce qui marche, de ce que nous arrivons à accomplir. Et surtout, recherchons ce qui dure, le plan du Seigneur, sa volonté à laquelle il nous invite de participer. Je vous invite à la prière. Seigneur, loin de nous remonter les bretelles, Colette nous invite à ouvrir les yeux et à voir ce qui compte vraiment. J'aimerais te prier que cette vision, au lieu de nous désespérer, nous donne la paix. La paix de ce que toi, tu contrôles toutes choses, que toi, tu fais toutes choses bonnes. Que même si nous devons continuer à agir, nous pouvons nous reposer sur toi. D'ailleurs, j'aimerais te prier que nous puissions nous orienter dans cette direction pour l'année scolaire à venir. Je te prie que nous puissions la garder lorsque le stress sera là. J'aimerais te prier que nous puissions être des témoins là où nous sommes, des gens dont on voit qu'ils ont la paix parce que nous l'avons en toi. Accompagne-nous, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Je te prie au nom de Jésus. Amen.